L'été est là. Le retour de Boulevard. La ride parfaite pour retourner à la maison.
Boulevard 102.1.
On le sent tranquillement pas vite que les gens ont terminé à 16h. C'est l'heure tapant. Je pense que le carrosse de Cendrillon vient à 16h pendant les vacances, pendant la saison estivale. Là, sur les réseaux routiers, Tom, c'est un peu plus difficile.
Oui, un petit peu plus difficile à 16h37. Commencer avec Capitale en direction est, entre le boulevard Saint-Jacques et le boulevard Pierre-Bertrand. On est au rouge. Capitale en ouest, à la hauteur de Laurentienne, il y a un petit ralentissement de ce côté. Même chose pour l'embranchement. Donc, Laurentienne, direction sud, pour aller chercher la capitale en direction ouest, c'est au rouge. Également sur Henri IV, en direction nord, à la hauteur de Chauveau, difficile. Et je termine sur la rive sud, sur la 20. Direction ouest, ralentissement à la hauteur du chemin des îles. D'autres choses à mentionner, les amis, vous n'hésitez pas par texto si vous êtes apte de le faire. 418-971-1021.
Sur les ondes de Boulevard 102, on parle de toutes sortes de sujets qui sont plus sérieux ou pas. Ça dépend à l'heure à laquelle vous branchez. Ça dépend dans quel mode on est aussi. On parlera plus tard de ceux qui parlent à la troisième personne d'eux-mêmes. Parce que les psychologues ont investigué là-dessus, puis il y aurait des petites corrélations à faire. Est-ce parce que les gens sont imbus d'eux-mêmes? Est-ce parce que c'est un signe d'intelligence? Chose certaine, je peux vous dire que Donald Trump le fait, LeBron James le fait, Kanye West le fait, Alain Delon le fait aussi, et Jules César le faisait aussi dans ses allocutions. Bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Il y a des dossiers dans l'actualité qui continuent de faire jaser. Entre autres, il y a des commerçants, des entreprises qui veulent parler d'électricité parce que pour eux, lorsqu'il y a une panne, ben, ça a des dommages collatéraux importants sur leurs finances.
Clairement. Donc, tu sais, on le voit au niveau des commerçants sur la rue Racine à l'heure actuelle qui vont avoir une panne le 2 août prochain. De 6 heures, et là, ils disent « Hey, Hydro-Québec ne me dédommage pas. » Et puis moi, ben j'ai un restaurant, j'ai pas le choix de faire mes commandes à l'avance. Si je veux faire venir des génératrices, il faut que je paye un électricien pour qu'ils viennent toutes me patenter ça, pour que mes frigos fonctionnent. Fait que c'est très difficile pour eux à l'heure actuelle. Puis ils se disent « Ben Hydro-Québec pourrait me permettre d'avoir des solutions alternatives. » Et non, du côté d'Hydro-Québec, on répond tout simplement que c'est des choses planifiées.
Pas possible.
Que c'est pas possible et que ça doit se faire à ce moment-là en raison, là, justement, de construction de nouvelles habitations.
Donc, c'est genre, achetez-vous une génératrice, puis c'est pas mal la seule solution.
Ben, c'est ça, puis payez votre électricien, exactement. Ouais. Donc, tu sais, ces commerçants-là disent, et avec raison, écoute, on paye déjà un gros prix en taxes commerciales, on paye déjà un gros prix Hydro-Québec en termes d'hydroélectricité. Puis là, il n'y a personne pour m'aider quand je vis ça. Puis c'est soit des pertes énormes en termes financiers, en termes d'alimentation, d'aliments, ou c'est tout simplement que je suis obligé d'ajouter des coûts à mon entreprise d'opération avec des génératrices, des électriciens, etc. Donc, c'est un peu là, le deux poids, deux mesures là, qui prévaut pour eux.
Pis ça jase, puis c'est un angle qu'on n'utilise pas souvent dans ce genre de conversation-là. T'sais, on parlera plus tard d'interdiction de voitures à essence en 2035, ouais. Les craintes des manufacturiers automobiles, qui sont des tactiques de peur selon certains lobbies pro-électriques. Mais il y a notre collaborateur régulier aussi, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, qui revient de vacances tout feu, tout flamme, mm-hmm. qui est au bout du fil. Puis il y a quelque chose à dire justement sur cette interdiction des nouvelles voitures à essence. Salut Nicolas!
Salut, ça va bien?
Ben oui, toi aussi. Retour de vacances pas trop, intense?
Non, juste assez. Disons que ça fait du bien là, de prendre une semaine avec la famille puis de m'éloigner de mon téléphone, de mon ordinateur puis de certains sujets d'actualité des fois là, qui nous font bouillir un peu le sang, là, comme justement tout ce qui concerne les finances et les impôts que nous, les contribuables, on paye. Mais au final, écoutez, ça a fait du bien puis je suis de retour pour aussi longtemps que possible. D'habitude, je prends une semaine puis après ça, je suis quasiment bon pour un an. Donc, on va voir comment ça va aller, mais je suis prêt pour le retour au travail.
OK, mais toi, tu fonctionnes soit à l'électricité très forte ou au gaz, là, prendre une semaine par année, puis t'es bon pour un an. On va te garder comme collaborateur, Nicolas. Puis on en parlait, là, des constructeurs automobiles qui veulent que le gouvernement Legault mette le pied sur le frein. T'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Est-ce qu'on te contacte beaucoup sur le sujet?
Pardon? Excuse-moi, ça a coupé au moment où tu as prononcé quelque chose.
Tu voulais parler des constructeurs automobiles, oui, qui veulent que le, oui, gouvernement Legault mette le pied sur le frein un peu parce que 2035, ça approche. On n'est pas nécessairement prêt dans la province. Est-ce qu'on te contacte beaucoup sur le sujet?
Ben oui, effectivement, de notre côté, disons que ça fait quand même un bon moment qu'on pilote une campagne pour s'opposer à cette interdiction qui arrive quand même assez rapidement. 2035, c'est quand même pas demain, mais il n'en reste que c'est quand même un changement assez important là, pour l'ensemble de l'économie québécoise et pour plusieurs industries qui va se faire en s'accélérant au courant des prochaines années. Et on s'entend qu'au courant de seulement du dernier mois, on a quand même le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charest, qui a justement ramené le dépôt de son règlement en disant que ça allait se régler cet automne pour que, au final, tout va être en vigueur dès le 1er janvier 2025, c'est-à-dire que c'est à partir de là que tranquillement, on va avoir des contraintes de plus en plus sévères pour les constructeurs automobiles, c'est-à-dire que on va forcer les constructeurs à limiter le nombre de voitures à essence et au diesel, ou du moins les nouvelles voitures qu'ils peuvent vendre dans leur concessionnaire. Et finalement, d'ici 2030, littéralement 85% des véhicules qui vont être vendus chez les concessionnaires vont devoir être électriques. C'est quand même pas rien, parce qu'on parle quand même de faire augmenter du jour au lendemain, ou quasiment à peine 5 ans, le parc automobile de 270 000, ça c'est le nombre de voitures électriques qu'on a présentement sur les routes, à pas loin de 2 millions en 2030. Donc, c'est quand même des contraintes assez importantes pour les constructeurs qui doivent effectivement augmenter la production pour rendre ces voitures-là disponibles et accessibles pour les gens qui n'auront pas le choix de les acheter. Puis, ils n'ont pas le choix d'augmenter le nombre de voitures parce qu'autrement, le prix est trop élevé pour certains pour leur permettre de les acheter. Donc, augmenter le nombre de voitures va nécessairement faire baisser les prix. Mais il faut rappeler que les constructeurs automobiles vont être pénalisés s'ils n'atteignent pas leurs objectifs d'ici là. C'est-à-dire que juste à partir de 2027, par exemple, 45% des voitures que les fabricants automobiles vont vendre, vont devoir être électriques. Et s'ils n'atteignent pas ces objectifs-là, ils doivent normalement utiliser des crédits qui leur sont fournis par le ministère de l'Environnement pour compenser pour les voitures qu'ils n'auront pas vendues. Sauf qu'éventuellement, ils n'auront plus de crédits. Donc, quand ils sont en mesure d'émettre des crédits pour compenser les voitures à essence qui ont été vendues, ou sinon qu'ils sont plus en mesure de vendre que des voitures électriques en suivant les objectifs, ben là, ils vont avoir des amendes. Donc, c'est des pénalités qui vont être assez importantes et ça pourrait effectivement rendre difficilement accessibles les voitures électriques pour citoyens, les contribuables d'ici 2030 et même au-delà.
Dis-nous, Nicolas, mettons qu'on s'en va dans un monde utopique, là, puis que je te dis, ça c'est possible, la transition sera possible, mais il n'y aura pas de contraintes là-dessus. Est-ce que toi, tu as encore des bémols? Je t'explique pourquoi je te pose cette question-là. Parce que tantôt, on va parler à Louise Lévesque, qui est directrice des politiques de mobilité électrique Canada. Puis eux trouvent que les manufacturiers automobiles sont en train d'utiliser des tactiques de peur pour cette interdiction de voitures à essence en 2035 en disant qu'on n'est pas prêt, etc., etc. Admettons qu'on était prêt. Toi, est-ce que tu aurais quelques questionnement par rapport à ça, malgré tout?
Ben oui, la première chose que nous, on veut savoir à la Fédération canadienne des contribuables, c'est le coût de cette politique-là, parce que c'est pas à coût nul, on va se dire franchement. D'une part, il y a quand même un coût assez important pour toutes les subventions qui ont été déployées pour l'achat des voitures électriques au cours des dernières années. On parle quand même de centaines de millions, voire de milliards. De notre côté, on a juste été chercher les chiffres au cours des 5 dernières années pour l'ensemble des subventions pour l'acquisition des voitures électriques. Il faut rappeler qu'il y en a seulement 270 000 sur les routes au Québec et ça a coûté pas loin de 1,9 milliard de dollars en subventions. Donc, si on veut augmenter drastiquement la taille du parc de voitures électriques au Québec, ça va nécessiter plus de subventions, ce qui est assez particulier parce que le gouvernement met fin à ces subventions-là d'ici 2027, mais le gouvernement fédéral met aussi beaucoup d'argent là-dedans. Mais au-delà des subventions à l'achat, il faut rappeler que c'est quand même une transition très large. Il y a autant dans le domaine des fabricants automobiles. On rappelle les milliards qui ont été mis par le gouvernement du Québec dans la filière électrique chez les constructeurs automobiles pour les subventions et tout ça. C'est des coûts importants qui sont assumés par les contribuables et on parle même pas non plus de toutes les dizaines, voire centaines de milliers de bornes électriques que le gouvernement du Québec prévoit déployer sur l'ensemble du territoire au courant des prochaines années. Puis à la fin, je pense que la question la plus importante, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question d'énergie. Ça fait quand même quelque temps qu'on se dit, est-ce que Hydro-Québec va avoir la capacité à répondre à la demande importante en termes d'électricité d'ici la fin de la décennie? On sait qu'on va perdre nos surplus qu'on avait historiquement au Québec là, depuis très longtemps, d'ici 2027. Hydro-Québec elle-même est incapable de dire si on va avoir la capacité pour soutenir l'ensemble de cette demande-là au-delà de la décennie actuelle. Donc, même le gouvernement du Québec dit qu'en 2030, il y aura une réévaluation des objectifs, à savoir si 2035, c'est soutenable. Dans notre livre, nous, c'est assez simple, on n'a pas les moyens actuellement. Le gouvernement du Québec s'est mis dans une situation où est-ce que soit il recule et il fait le geste mature de réévaluer le coût de cette politique-là avant de s'avancer comme il fait, ou sinon, on a peur que le réflexe soit de encore plus garrocher d'argent dans l'industrie, autant chez les constructeurs automobiles qu'en subvention, en espérant que ça va aller plus vite de cette manière.
On ne veut pas être contre la vertu, mais quand même, c'est intéressant ce que
tu dis. Oui, puis Nick, il ne faut pas oublier aussi pour le contribuable, c'est 17 000 $ de plus en moyenne un véhicule électrique qu'un véhicule à essence. Puis le gouvernement ne s'est pas engagé à poursuivre au-delà de 2025 l'augmentation maximale de 3% chez Hydro-Québec parce qu'on va avoir besoin d'argent pour développer le réseau.
Ben exactement. Puis il y a même des études qui ont déjà été produites par d'autres institutions. Il faut rappeler qu'il n'y a pas juste le Québec qui va interdire la vente de voitures, de nouvelles voitures à essence au diesel en 2035. Il y a le gouvernement fédéral également, ce qui est assez particulier parce que si on change de gouvernement l'année prochaine, il y a des bonnes chances que cette politique-là tombe à l'eau au fédéral. Mais ça ne veut pas dire qu'au Québec, on va reculer nécessairement. Il y a quand même plusieurs États américains qui vont dans cette direction-là. Mais à ce jour, le Canada est le seul pays en Amérique qui s'est engagé dans cette direction-là. Et il y a un rapport qui a été produit par rapport à la demande énergétique qui va nécessiter en fait toute cette transition-là d'ici 2035. Et selon le rapport, on parle d'environ... on devrait construire d'ici la prochaine décennie environ 10 nouveaux barrages hydroélectriques à la grandeur du pays. Juste pour donner une idée.
Ça, c'est déjà compliqué. Là, je fais une parenthèse sur ce que tu dis. C'est déjà compliqué parce qu'il y a beaucoup de discussions aussi avec des communautés, avec des collectivités. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Là. Tu peux continuer, Nicolas?
Oui, exactement. Ben, c'est justement un processus comme ça, pour un tel projet d'infrastructure, c'est pas loin de 20 ans. Ne serait-ce que pour toute la préparation pour le développement de l'infrastructure, puis la construction, puis c'est pas loin de 15 à 16 milliards de dollars facilement. Puis ça, ben, toujours payé soit par ceux qui vont payer justement les factures d'électricité. Donc au Québec, c'est nous tous, ou sinon c'est les contribuables directement. Donc d'une manière ou d'une autre, toutes ces réponses-là n'ont pas encore été répondues par le gouvernement, mais on sait que ça s'en vient. Et ce coup-là, ben, il faut quand même en connaître les détails avant d'aller de l'avant. Les contribuables méritent quand même ça.
On aurait le temps d'un dernier sujet, puis y a-t-il notre attention, veux pas, quand on parle de l'argent qu'on a dans les poches, puis peut-être des impôts qu'on demande aux Canadiens. C'est sûr qu'on va donner du temps à ça, Nicolas, mais le Canadien moyen paie plus en impôts qu'en biens de première nécessité. C'est un rapport que tu as consulté.
Oui, ça a été publié tout récemment par l'Institut Fraser et c'est un rapport qui donne froid dans le dos puis qui fait suite à un sondage qui est sorti la semaine dernière pour ceux qui ont fait vu ça passer de Ipsos qui rappelait que les Canadiens étaient de plus en plus nombreux à trouver qu'on payait trop de taxes, trop d'impôts et que le gouvernement dépensait trop. Mais là, on sait également qu'on paye beaucoup plus d'impôts que quoi que ce soit d'autre. En fait, quand on se base sur le calcul qui a été fait, dans le fond, la famille moyenne au Canada va consacrer une plus grande partie de son revenu à toutes les formes d'impôts et de taxes. Donc, c'est environ 43% de ses revenus qui s'en vont là-dedans, contrairement à la nourriture, le logement et les vêtements qui représentent environ 35,6% des dépenses des Canadiens. Donc, ça, pour l'instant, si on prend le ménage moyen, donc avec un revenu brut de 109 000 $, qui est à peu près ce qui est établi au Canada présentement, ben en 2023, ce ménage-là payait environ 46 988 $ en taxes et en impôts. Donc ça, c'est une facture fiscale qui représente presque la moitié de tous les revenus. Donc, on est vraiment rendu à un point où est-ce qu'on n'a jamais été aussi imposé. En fait, la facture fiscale des Canadiens, si on regarde les 50 dernières années, elle a augmenté plus rapidement que le coût de la vie ou que l'augmentation de tous les autres types de commodités. Et ça fait aussi suite à un sondage, comme je dis, qui est sorti la semaine dernière, qu'on rappelle qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui trouvent qu'on est trop imposé, et avec raison, mais qui trouvent qu'on n'en a pas pour notre argent, parce qu'on est imposé, mais on a un gouvernement qui dépense plus que jamais. Il faut le rappeler, depuis 2015, on a des déficits qui s'accumulent. On a un gouvernement qui dépense plus que qu'est-ce qu'il récolte en taxes et en impôts. Et on n'a pas l'impression d'avoir un retour sur investissement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que le gouvernement fédéral donne des meilleurs services, malgré le fait qu'il n'a jamais été aussi important. Je pense que ça vaut la peine de dire que malgré toutes les augmentations d'impôts sous Justin Trudeau, on a également augmenté la taille de la fonction publique de 42 %. entre 2016 et 2023. C'est pas loin de 108 000 fonctionnaires de plus qui ont été engagés dans la structure publique. Et en contrepartie, ben, je suis pas sûr que grand monde peuvent me dire qu'ils ont un meilleur service de la part de Revenu Canada, de Passeport Canada ou à l'aéroport ou peu importe quelle institution qui est gérée par le gouvernement fédéral. Donc, plus imposé, moins de services et un gouvernement plus dépensier. Il commence à avoir beaucoup de red flags et on espère que Justin Trudeau va finir par les voir au moins d'ici le début de la prochaine session parlementaire.
Ouais, sinon ça va être les électeurs qui vont lui faire voir, j'ai l'impression, aux prochaines élections. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Bon retour de vacances.
Ben, merci beaucoup, puis ça va être un honneur pour moi de revenir la semaine prochaine.
Assurément, t'es à notre planning. Salut, Nick. Nicolas Gagnon qui épluche tous les rapports possibles.
Toujours intéressant, oui. Nicolas, vraiment. Toujours très pertinent, puis des chiffres dévastateurs.
Mais c'est un chien de garde là, pour nous, en fait, oui. Côté finance. Puis après, on peut se positionner comme on souhaite. Puis,
exactement.
On a commencé à parler avec lui, avec la nouvelle qui était sortie pour l'électricité, avec la rue Racine, entre autres, à Québec, des commerçants qui se sont vus couper l'électricité puis il n'y avait pas de compensation. Tu sais, vite de même, tu te dis, faut-tu vraiment qu'il y ait une compensation pour un service public quand on a une adaptation à faire ou encore un petit changement? Mais on a eu un commentaire vraiment intéressant au 88-971-1021. Quelqu'un qui nous écrit, concernant ce sujet d'Hydro-Québec, moi, je travaille dans un garage, puis à deux reprises, on m'a cédulé une panne électrique de 3 heures. En matinée, j'ai dû canceller tous mes rendez-vous, puis aviser mes clients que je ne pouvais pas réparer leur véhicule les deux fois où c'est arrivé. Hydro-Québec m'a communiqué le matin pour me dire que la coupure de service n'aurait pas lieu finalement. Donc, j'ai contacté Hydro, je leur ai dit, ben là, y a-t-il une compensation pour ça? Moi, j'ai annulé tous mes clients qui allaient passer dans la journée. Puis pour certains, c'était des urgences, fait qu'ils sont allés ailleurs. Mais pour d'autres, je veux dire, ils n'ont pas eu la chance de revenir au garage cette journée-là. Puis un, c'est des clients qui n'ont pas de service, mais deux, pour lui, c'est d'immenses pertes pour quelque chose qui finalement va juste être recédulé. Parce qu'ils n'ont pas pu faire la job la journée de même. Mm-hmm. Puis ça m'a fait penser à cette journée-là où on aura des coupures de courant, puis ce sera des véhicules électriques. Là. Les gens qui ne pourront pas charger leur voiture, qu'est-ce qui va arriver pour aller travailler, pour aller porter les enfants, pour des rendez-vous dans des hôpitaux? C'est toutes des choses auxquelles on doit penser. Puis je suis pas certaine, en voyant les derniers projets gouvernementaux qui ont été mis en place, puis tu sais, c'est presque rendu le point Godwin là, quand tu parles de la SAQ, là, à l'implantation numérique qui a été faite, mais ça reste que c'est le dernier déboire qu'on a eu, puis c'est la dernière transition technologique qu'on a eue, et donc gros changement. Bien, la prochaine, ce sera peut-être dans un dossier de santé, puis l'autre qui va s'en venir, qui est en transition, c'est celle de 2035. C'est quelque chose que moi, que j'ai à dire de plus. Je veux pas me taper dans les mains, mais c'est quand même un questionnement que je pense qui est intéressant. Là.
C'est un très drôle questionnement, d'autant plus que, comme Nicolas nous disait, ça prend 20 ans pour faire des barrages hydroélectriques. On est à 11 ans de cette norme-là. J'ai fait des recherches. Un barrage hydroélectrique, c'est en moyenne 15 milliards de dollars. Il faut en bâtir 10, mais on est rendu à 150 milliards. Puis là, on s'est pas projeté dans 20 ans, donc on s'entend la facture va être encore plus élevée. Fait que c'est tous ces coûts-là. Et là, quand Nicolas nous dit, 43% de votre revenu, il sert à payer, il sert à donner au gouvernement pour les services que vous recevez. Bien, si on fait juste augmenter ces coûts-là d'électricité, de barrage, d'infrastructure, bien, ça sera plus 43% qu'on va payer, ça va être 47-48%. On sera plus capable de se nourrir.
Puis, tu sais, je suis quand même mitigée, puis j'ai pas envie juste de critiquer ces évolutions-là. Faut passer par ça. Va falloir s'adapter, va falloir faire attention à notre climat plus que ce qu'on le fait en ce moment. Puis, c'est pas juste de le rejeter dans la cour des pays qui nous écouteront jamais, même s'ils scrapent l'environnement à tour de bras année après année. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas commencer à demander au président,
président la Chine, chinois là,
de faire des changements. Ça n'arrivera pas. Là. Mais ça reste qu'il faut le faire étape par étape puis pas commencer à créer d'autres problèmes. C'est le cas un peu d'Alejandro qui nous écrit. Je suis pour l'électrification des transports, mais il faut le faire étape par étape. Il faut être capable de produire assez d'énergie pour en fournir. Pas obligé non plus que ce soit plus cher, mais avec le temps, la majorité, ce sera électrique. Mais il va falloir prendre le temps de bien faire les choses. Puis c'est ce qui est peut-être critiqué. Puis c'est ça qu'on va aller discuter un peu plus tard aussi avec Louise Lévesque, directrice des politiques de mobilité électrique Canada. Il ne faut pas que de part et d'autre, là, de part et d'autre, dans chacun des camps, on se mette la tête dans le sable.
Tu as raison, il ne faut pas que ça devienne une guerre électricité contre essence. On sait qu'on va passer vers le mode électrique puis ça va être mieux pour notre environnement, mais il faut juste le faire de la bonne façon.
Ben, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on est les seuls à réfléchir là-dessus, mais c'est impossible. Là. On est toujours bien Jeff, Tom et Pascal dans un studio de Le Bourgneuf. Mais des fois, on se le demande. Nickelback s'en vient sur les ondes de Boulevard 102.1. The Offspring, en ce moment. The Kids Aren't Alright. C'est pas une compensation, là, à Sum 41, mais c'est un des bands qu'on aime pas mal.
Ben oui.
Qui a rocké nos plaines d'Abraham cet été au FEC. Vous êtes à Boulevard 102.1, dans le retour à la maison.